Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Bank avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre émission Questions de femmes, nous ne parlons ni d'une maladie, ni d'un problème de santé, mais bel et bien d'une épreuve à part dans l'existence et pourtant une épreuve indissociable de la vie. Il s'agit du deuil. Le deuil, on l'a dit, ce n'est évidemment pas un problème de santé, mais lorsque le chagrin s'installe, la vision de soi-même, des autres, du monde change. La souffrance affecte les relations, toutes les relations, les habitudes, jusqu'aux besoins les plus élémentaires que sont le sommeil ou l'alimentation. Ce processus de deuil sans consolation peut donner lieu à un échange avec un médecin, tout simplement pour aller mieux après. Vivre sans une personne que l'on a aimée, mettre des mots sur cette perte, essayer de trouver des clés pour sortir de cette prison de la tristesse. Et aujourd'hui, comme chaque vendredi, les auditrices ont la parole. Témoignages, questions sur notre numéro WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 avec un spécialiste pour vous écouter et pour vous orienter. Essayer de trouver du réconfort lorsqu'une perte nous plonge dans une solitude absolue, comprendre une tristesse profonde, accepter de refaire des projets, un processus complexe, respecter son rythme. On en parle avec vous, professeur Papa Lamine Faye, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes psychiatre, directeur de l'Institut universitaire de santé mentale, l'IREP, à l'université Cheikh Diop de Dakar. Et vous êtes maître de conférences agrégé de psychiatrie, diplômé donc de cette faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de Dakar. On vous retrouve dans les studios de RFI en full day et mandinquant, dont on remercie une nouvelle fois, bien sûr, toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
Alors, je le disais à l'instant, professeur Faye, bien sûr, le deuil, ce n'est pas une maladie, mais à partir de quel moment, sur la base de quels signes, est-ce qu'on peut considérer que la personne qui vient de perdre un être cher se retrouve dans une souffrance qui devient préoccupante sur le plan de la santé ?
Ce n'est pas à partir d'un signe, c'est à partir justement d'un événement, et l'événement, c'est la perte d'un être cher. Une fois qu'on perd cet être cher, il y a un processus qui va s'enclencher en nous qui est de l'ordre de la cicatrisation d'une douleur, d'une blessure, et c'est ce qu'on appelle le processus de deuil. Ça n'affecte pas que les relations, ça ébranle des certitudes, ça brise certains repères où l'individu va maintenant apprendre à vivre sans l'autre avec qui il avait co-construit et cheminé, et finalement il se retrouve dans une situation inédite. On ne peut pas ressentir cette douleur, mais on essaie de comprendre ce que la personne endure tant qu'on n'a pas été soi-même confronté à cette épreuve.
Et c'est vrai qu'il y a une forme d'injonction à la consolation. Autrement dit, on devra aller mieux au bout de tant de temps. Est-ce que c'est quelque chose qui fait peut-être encore plus souffrir ?
Je sais que de la part de l'entourage, c'est une attitude qui est sous-tendue par beaucoup de bienveillance. Mais en général, ça peut faire mal, ça peut être contre-productif. Puisque ce qui mobilise l'entourage, c'est l'impuissance face à la douleur de cette personne, puisqu'on est dans un processus, c'est irréversible, la perte elle est irréversible. Le processus de deuil, c'est un processus qui est unique pour chaque personne, parce que beaucoup de facteurs vont rentrer en ligne de compte, à savoir les pertes qu'on a déjà subies dans le passé, les expériences douloureuses qu'on a vécues, notre personnalité, nos défenses psychologiques, la manière dont on est soutenu, la qualité des relations autour de nous. Tout ça va entrer en ligne de compte, mais surtout, la nature de la relation avec la personne perdue.
Et sur ce rôle de l'entourage, c'est bien une question qu'évoque Solange du Cameroun sur la page Facebook de l'émission. Elle écrit, je vous lis son message, hein. Perdre un être avec qui on partage ses journées, son intimité, sa vie en général, c'est très difficile. Alors comment surmonter sa peine et faire son deuil si l'environnement, l'entourage ne nous aide pas ? Qu'est-ce que signifie un soutien de qualité vraiment réconfortant pour une personne en deuil ?
Une personne en deuil, elle a besoin de parler de ce qu'elle ressent. Elle a besoin de mettre des mots sur ses émotions, sur sa souffrance. Et justement, à un moment donné, l'entourage peut être lassé d'entendre des choses et d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose. Or, la personne doit autant que possible, autant de fois que nécessaire, en fonction de ses envies et de ses besoins du moment, pouvoir parler jusqu'à ce que la douleur puisse s'éroder en intensité. Et tout au contraire, quand les choses sont retenues, parce que l'entourage quelque part est gêné, l'entourage implicitement vous donne l'injonction d'aller mieux, on est comme un couvercle fermé où tout bout à l'intérieur. Et finalement, si ce n'est pas par les mots, ça risque justement de passer par le langage du corps. On risque de somatiser, on risque de se sentir encore plus mal. Et donc, c'est face à ce sentiment d'impuissance que l'entourage, quelque part, vous donne presque l'ordre d'aller mieux. Or, c'est dans le temps que ça se joue et c'est indépendamment de la personne. Le deuil, c'est quelque chose qui doit se vivre. Tantôt, on va mieux, tantôt, on va moins bien. Il y a des jours où on se sent super bien, d'autres jours où on a l'impression de perdre pied. Donc on décide absolument de rien et l'entourage doit juste être là pour accompagner ces douleurs et ne pas se projeter et donner un contour à ces douleurs, un cadre où ces douleurs effectivement doivent pouvoir s'exprimer et s'arrêter une bonne fois pour toutes.
Professeur Fay, on a intitulé cette émission « Deuil au féminin ». Précisément, certaines pertes sont sous-estimées dans la mesure où l'être disparu n'a pas eu le temps de se faire connaître. Je parlais du deuil périnatal, autrement dit, le bébé qui est mort avant la naissance ou juste pendant les premières heures de vie. Il y a aussi certaines fausses couches à un stade peu avancé de la grossesse, mais qui, pour certaines femmes, ont un très très fort retentissement. Et on n'en parle finalement pas toujours suffisamment de ces pertes.
On n'en parle pas suffisamment. Moi, ce qui m'a fait m'en rendre compte le plus, c'est que j'avais mené une étude dans une unité obstétricale où j'ai interrogé des femmes qui avaient perdu leur bébé. Une fois que le risque vital, ça veut dire que la vie de la femme n'est pas en danger, on considère que le problème a été résolu. Mais en interrogeant ces femmes, je me suis rendu compte qu'il y avait une très, très, très grosse souffrance. Une souffrance d'autant plus importante que non seulement elle a perdu une personne qu'elle a commencé à investir sur le plan imaginaire, mais surtout que c'est une souffrance qui est minimisée, qui est banalisée, au point qu'on ne lui donne pas l'espace pour en parler. Donc effectivement, c'est une véritable souffrance. Et c'est une souffrance qui doit être accompagnée, c'est une souffrance qui doit être écoutée, entendue, et pas seulement raisonner la patiente ou se dire que c'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps de naître, donc il n'a pas d'identité, ou que si. Et là, cette personne qui est partie, qui est née prématurément, a une identité dans l'esprit de la femme, dans son imaginaire, puisque à partir du moment où il y a eu cette grossesse, une relation a commencé à se mettre en place. Comme on dit, il n'y a pas de deuil s'il n'y a pas d'attachement. Du coup, une fois qu'il y a de la perte, donc il y a un processus de deuil, il y a une blessure qui doit cicatriser et une blessure qui doit être accompagnée, une douleur qui doit être consolée.
Tout de suite, notre premier témoignage. C'est le moment de notre palabre au féminin, recueilli par Charlie Dupiot à Brétigny-sur-Orge en région parisienne. Et elles sont trois à s'exprimer autour du micro. Mamou, 27 ans, Mariam, 31 ans, et c'est Kumba qui a 42 ans. Mariam entame cette discussion.
Moi, il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 mois, j'ai perdu une cousine qui est décédée en dormant. Elle était enceinte en plus. Ça nous a choqués. Bah, on a grandi quand on était petite, on se connaissait. Elle avait 26 ans, 26, 27 ans.
Elle avait mon âge.
Elle avait ton âge, ouais.
Ma copine, elle a perdu son père il n'y a pas longtemps. Moi, j'étais très, très proche de son père. Je m'entendais super bien avec son papa. Lui aussi, c'était une mort subite, son père. Et elle, quand elle l'a appris, elle était en train de nourrir ses filles, leur donner le goûter, les yaourts et tout. Et quand elle l'a appris, on lui a appris que son père, il était décédé. Le téléphone, il a raccroché. Elle a dit, mais j'ai même pas eu le temps d'encaisser le choc du décès. Que je devais m'occuper de mes enfants, quoi. Quand t'es mère, tu dois t'occuper des enfants, tu peux pas vivre ton deuil comme t'as envie de le vivre, parce que tu dois... Il y a tes responsabilités qui te rattrapent, quoi. Franchement, moi, j'ai pas connu ça. Et franchement, c'est ce que j'appréhende le plus, le fait de perdre quelqu'un.
Moi, déjà, le premier deuil que j'ai vécu, c'est le décès de mon père, quand j'avais 6 ans. Et j'avais 14 frères et sœurs, parce que on était 15. Ma mère, elle en avait 10, et l'autre, elle en avait 5. Donc, moi, en fait, à cette période de deuil-là, j'étais devenue silencieuse. Je parlais plus. J'y croyais pas, parce que j'étais dans mon côté enfant. Et en fait, l'expérience de ce deuil-là, ça m'a permis d'apaiser beaucoup de cœurs de personnes qui ont eu des décès.
Franchement, j'ai pas vécu trop ce côté-là, en fait, à part ma grand-mère paternelle. avec laquelle j'ai passé du temps. Elle est décédée en 2019, au mois de janvier.
Et elle était où ?
Au village, au Mali. J'avais pris les billets au mois de novembre pour partir au mois de juillet 2019. Pour dire, bon, faut que j'aille voir ma grand-mère avec les enfants pour que, voilà, ils la voient et que elle aussi, elle les voit parce que, voilà, elle se fait vieille. Bon, elle avait 100 ans, hein, c'était pas, voilà. Elle avait 100 ans, mais toute sa tête. Ça m'a fait mal son décès, mais c'est plus quand je suis partie, malgré qu'elle n'était plus là, et que je vois qu'elle n'est vraiment plus à la maison. C'est ça qui m'a plus chagrinée, parce que...
Quand vous êtes revenue au Mali
Quand je suis partie quand même au Mali. Je suis allée quand même, au mois de janvier, elle est décédée. Bon, au mois de juillet, on a été quand même. Mais c'est le fait d'arriver à la maison et de vraiment pas la voir que je pense que je me suis vraiment rendu compte que... Elle n'était plus là, quoi. Sa porte était fermée. Mais moi, je me suis pas mis dans la tête qu'en fait, dans cette grande maison, je me sentirais seule. Enfin, il y a tout le monde autour de moi. Il y a mes oncles, leurs femmes. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne, en fait. Ça m'a donné le vertige. C'est la maison de mon père. On se dit, il y a plein d'endroits, mais en même temps, il n'y a nulle part.
Ouais.
J'ai pas envie, en fait. Ouais. J'ai pas envie de m'asseoir. J'ai pas envie de... Et ça, c'est un truc, je ne m'y attendais pas en fait. Je pense que je me suis plus renfermée que d'en parler autour de moi. J'y suis retournée encore l'année dernière et ça fait toujours le même vide. Et ça fait toujours aussi bizarre hein, de se dire qu'elle n'est vraiment plus là en fait.
Ça ne partira pas, moi, je trouve cet effet-là. Mm-hmm. Tu vas toujours repenser à la personne. Moi, j'avais 6 ans, ma mère, elle m'a ramenée au bled. Elle pensait que si elle me ramenait voir la tombe, ça allait changer quelque chose.
Tu vois,
ça m'a juste aidé à réaliser que qu'elle est partie.
Pour que tu puisses avancer par la suite.
Ouais. J'ai eu des enfants, mais je sais que quand j'ai mes enfants, des fois je me dis, j'ai toujours ce pincement, je me dis, oh, mes enfants, ils ne connaîtront jamais leur papy. Il ne va jamais voir mes enfants, il ne va jamais voir mon mari, il ne va jamais voir ma réussite, etc. etc. Et plus en fait tu as des bonnes nouvelles, plus tu vas penser à la personne qui aurait pu être là pour voir ça.
Ça veut dire que vous êtes toujours un peu en train de faire le deuil.
Ça finit pas. Hein. Moi, chaque année, on essaie de se recueillir pour lui faire des aumônes en son nom, etc.
Moi, je pense que le deuil, on le fait pas vraiment. Je pense qu'on apprend à vivre avec. On apprend à vivre sans la personne.
T'apprends à vivre sans.
Professeur Papa Lamine Faye, beaucoup de sagesse dans cet échange et ça me fait penser à quelque chose. On devrait peut-être parler plus de la mort, non ?
Oui, justement, et c'est tout le contraire qui se passe habituellement. Quand quelqu'un décède, ce dont on se rend compte, c'est que dans certaines familles, on évite même de prononcer le nom du défunt.
Mmh.
Et ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles les gens endeuillés se sentent souvent très seuls. Et ça, c'est un véritable problème. Écouter la personne, la laisser s'exprimer autant qu'elle veut, ça permet encore une fois aux émotions de circuler et à quelque chose qui était douloureux de s'apaiser progressivement. Apprendre de sa douleur et se reconstruire et devenir quelqu'un d'autre avec maintenant une expérience.
Comprendre comment cette perte nous a changé. On prend une première auditrice en ligne. C'est Mariam. Mariam, bonjour.
Bonjour, bonjour les filles, à tous ces auditeurs.
Alors, on vous retrouve en ligne de Lyon, Mariam, vous êtes âgée de 28 ans, et il y a une perte qui vous affecte particulièrement encore aujourd'hui, c'est celle de votre sœur. Cela remonte à combien de temps ?
Cela remonte à peu près plus de 6 ans ou 7 maintenant.
Et vous avez le sentiment aujourd'hui, Mariam, que cette disparition, c'est toujours aussi difficile pour vous ?
Oui, je ne parviens pas à l'oublier. Chaque jour que j'y pense, j'ai l'impression que c'est tout de suite qu'elle vient de partir. J'ai tout fait pour parvenir à faire son deuil, mais je ne parviens pas. C'est une sœur, c'est une amie aussi, c'est une meilleure amie, moi.
Votre meilleure amie, elle avait quel âge quand elle est partie ?
17 ou 18.
Toute jeune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ?
Au fait, elle est tombée malade. Elle a eu juste des douleurs à la poitrine, mais comme elle était très sportive, on croyait que c'était les mêmes douleurs auxquelles elle était habituée à se plaindre. Elle-même, elle est allée prendre sa douche, elle est allée se reposer. Et 2 jours plus tard, ça a repris de forte intensité. Elle est sortie, elle a fait le tour de la maison et ça n'allait pas. Et on l'a évacuée à l'hôpital. Et à l'hôpital, elle est restée quelque temps. Et les médecins nous ont dit qu'elle a un problème au niveau de sa bile et que c'était impossible de réparer. Et ça affectait ses autres organes. Moi, j'ai proposé au médecin, si c'était un problème de rein, s'il y avait compatibilité, j'aurais pu lui donner un rein, mais ce n'était pas le cas.
En fait, vous aviez envie de lui sauver la vie, c'est ça?
Oui, on avait tellement envie de lui sauver la vie. On a utilisé tous nos moyens financiers et tout ce qu'on pouvait lui apporter. Et à la dernière minute, c'est elle-même qui a dit, écoutez, vous avez fait de votre mieux, mais quand la date arrive, rien ne peut l'empêcher.
Donc elle avait de la sagesse par rapport à ce qui lui arrivait. Vous, aujourd'hui, vous avez toujours ce chagrin. Est-ce que vous arrivez à en parler autour de vous? Est-ce que vous en avez déjà parlé à un médecin?
Oui, j'en ai parlé à quelques médecins qui m'ont aussi essayé à leur manière à me remonter le moral en prenant des exemples de leur vécu, mais je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas.
Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de bons moments avec elle?
Il n'y a eu que des bons moments avec elle. Et c'est surtout ça.
Mais aujourd'hui, quand vous vous souvenez de ces bons moments avec elle, vous n'arrivez pas encore à avoir le sourire en vous souvenant de vos jeux, quand vous pouviez avoir petite fille des fous rires, tout ça? Ça ne vous ramène pas encore le sourire sur les lèvres?
Pas trop, parce que c'est des choses que je me dis, je ne pourrais plus les revivre. Tout ça là, c'est au passé. On était tellement compatibles, elle et moi.
Oui.
On avait nos propres moyens de communication avec qui je ne pourrais plus avoir la même chose. C'était une personne qui comprenait tous mes gestes.
Professeur Papalamine Faye, on entend Mariam, elle l'a dit en préparant l'émission avec Talimpo, elle n'arrive pas à faire son deuil. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? On comprend, une jeune sœur, 17 ans, on va dire la force de l'âge, elle meurt juste en revenant d'un exercice sportif. Bref, une journée comme les autres et puis tout change. Qu'est-ce qu'on peut lui dire dans ces cas-là?
La mort d'un sujet aussi jeune, ça fait toujours extrêmement mal et puis ça nous met dans l'incompréhension. D'autant plus que c'est une jeune sœur avec qui elle avait des relations très fortes de ce que l'on entend. Surtout qu'elle était prête sans qu'on le lui demande à donner un rein. Ça veut dire qu'elle voulait coûte que coûte sauver sa sœur. Mais on entend bien que Mariam, effectivement, ne parvient pas à surmonter cette douleur, puisque même quand elle en parle, elle dit c'est une sœur, c'est une amie. Elle met tout au présent comme si la personne continue jusqu'à présent à être là à ses côtés.
Est-ce que ça veut dire, par exemple, depuis que votre sœur est morte, est-ce que vous avez fait des rencontres? Est-ce que vous en avez parlé à des amis? Voire même, est-ce que vous êtes tombée amoureuse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie?
Si, je suis déjà avec mon mari. Mais vous savez, dans la vie de chaque individu, il y a des personnes qui sont vraiment irremplaçables. Chacun joue son rôle, c'est vrai, mais personne ne peut jouer le rôle de l'autre. Et c'est pour toutes ces raisons que je dis qu'il n'y a pas de changement, parce que c'est vrai que du point de vue relation amoureuse, je suis comblée, mais chaque personne joue son rôle dans la vie de l'autre. Il y a des cellules qui sont irremplaçables.
Irremplaçables. Papalamine Faye, vous voulez rajouter quelque chose hein?
Oui. En fait, Mariam, vous disiez que vous ne parvenez pas à oublier. C'est-à-dire qu'on ne va pas oublier les moments qu'on a partagés ensemble, ce qu'on a pu faire. Et j'ai besoin que vous compreniez une chose, et ça, c'est à l'endroit de toutes les auditrices. C'est-à-dire que quand on perd quelqu'un, il y a rapidement quelque chose qui va s'enclencher, qu'on appelle le processus de deuil, pour que la blessure cicatrise. Ça, c'est indépendant de votre volonté. Ça va se passer, que vous le vouliez ou non. Mais à côté de ce processus qui est involontaire, qui est inconscient, il y a ce qu'on appelle le travail de deuil. C'est ce que vous faites de façon personnelle et volontaire dans votre relation à cette sœur perdue. Pour vous donner une image, c'est par exemple comme quand vous vous blessez, que vous vous occupiez de la plaie ou que vous ne vous en occupez pas du tout, la plaie, tôt ou tard, va finir par guérir. C'est ce qu'on appelle le processus de cicatrisation. Mais vous pouvez décider de prendre soin de cette plaie, d'aller par exemple à l'hôpital, qu'on vous fasse des pansements. Là, vous êtes en train de prendre soin de la plaie. Et c'est ça le travail de deuil. Ça veut dire quoi? Il y a des... Par exemple, supposons, c'est les jours anniversaires de son décès. Il faut que vous organisiez quelque chose, que vous partagiez. C'est vrai que ça mobilise énormément de douleur. Mais c'est ce qui est paradoxal dans le deuil. Plus on a mal, plus on est sur le bon chemin. Ça veut dire, par peur d'avoir mal, des fois, on peut éviter de faire certaines choses. Il y a des endroits où vous rendiez, par exemple, je ne sais pas, des films que vous suiviez ensemble. C'est des choses que vous devez essayer de faire, créer de petits rituels autour de ça. C'est ça le travail de deuil, fêter son anniversaire, l'anniversaire de son décès. Et je ne sais pas, aménager un moment où vous allez vous parler à vous-même, où vous allez être dans la prière, dans le recueillement. Ça veut dire que c'est des moments que vous lui consacrez. Et ça, c'est le travail de deuil qui va permettre d'aller beaucoup plus rapidement vers quelque chose de plus apaisant et de plus consolant.
Mariam, est-ce qu'il vous arrive de célébrer sa mémoire face à des photos, un objet qu'elle vous avait donné pour reprendre justement un contact avec elle et puis après essayer de la laisser un petit peu partir?
Oui, à un moment, j'avais souvent toujours sa photo sous mon oreiller. Et une fois, la nuit, je pleurais et j'ai senti une présence qui m'a effleuré le front, qui a essayé d'essuyer mes larmes et me disant « Non, t'inquiète, moi je me sens bien là où je suis et je devais de toute façon partir à la date à laquelle je suis allée. » Et donc j'ai eu un peu peur, mais aussi je me suis un peu sentie bien parce que je me suis dit « De toute façon, même si nous vivons dans deux mondes différents, elle est présente dans ma vie. »
Professeur Papa Lamine Faye, la photo sous l'oreiller, peut-être pas tous les jours, à des rendez-vous réguliers justement pour être avec elle et puis après, comme je disais tout à l'heure, un petit peu la laisser partir?
Surtout ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est des phénomènes qu'il ne faut pas du tout craindre. Tout au contraire, le fait que vous vous soyez senti bien après montre que ce n'est pas quelque chose d'alarmant. Parce que quand on perd quelqu'un, naturellement, on est en train de rechercher cette personne, comme si on ne voulait pas que cette personne parte. Il peut arriver donc que les gens ressentent parfois de la présence, parfois même avoir l'impression de l'apercevoir dans la rue, quelque part, ou entendre des pas dans la maison. Mais effectivement, il ne faut pas que la photo, la manière dont vous investissez cette personne qui est partie, entrave votre fonctionnement quotidien, d'où l'intérêt d'en faire parfois un rituel, un moment à vous, où vous êtes avec ces photos, vous contemplez, vous revisitez les souvenirs. Parce qu'il y a deux phases dans le deuil. Il y a le moment où on hyper-investit les souvenirs et progressivement, on va lâcher sur ces souvenirs pour recréer une autre forme de lien. Parce que le fait que vous ayez besoin de regarder ces photos et tout, c'est parce que vous ne voulez pas renoncer à ce lien physique que vous aviez avec cette personne, où vous pouviez la voir, l'entendre, l'écouter, partager avec elle. Maintenant, étant donné que la perte est survenue, il s'agit de recréer une autre forme de lien qui est beaucoup plus émotionnelle et qui est beaucoup plus intérieure. Et ça, il n'y a que le travail de deuil qui va vous permettre d'y arriver. Donc moi, je vous encourage fortement, Mariam, à continuer à regarder ces photos, si vous en avez envie, à ne pas avoir peur de ces phénomènes qui surviennent. Ça ne fait que refléter le travail de deuil qui se met en place parce que vous avez essayé de faire quelque chose.
Un grand merci à vous, Mariam, pour ce témoignage et merci pour votre appel. Et vous nous faites partager un choix musical avec Lama Sidi B et ce titre Mamou. On va se retrouver juste après, professeur dans Priorité Santé, avec d'autres appels d'auditrices. Priorité santé sur RFI. Dans notre émission Question de femmes, on parle aujourd'hui du deuil au féminin. On retrouve dans les studios de RFI Dakar en full day mandinquant notre invité, professeur Papa Lamine Faye, directeur de l'IREP, l'Institut de santé mentale à l'université UCAD de Dakar. On parle donc de cette incompréhension face justement à cette persistance de la tristesse, ce dont témoigne Marie-Reine du Bénin. Elle explique qu'elle a perdu son frère il y a 19 ans, son père il y a 3 ans. Marie-Reine n'arrive pas à comprendre le fait qu'une fois devant leur tombe, elle pleure aujourd'hui encore, ce qui fait qu'elle n'y va plus au cimetière depuis un bon moment. Alors, professeur Papa Lamine Faye, cette question, est-ce que Marie-Reine, c'est elle qui la pose, est-ce que j'ai un problème justement parce qu'elle ne peut plus retenir ses larmes, y compris plusieurs années après?
Il ne s'agit pas justement de retenir ses larmes. Il faut laisser les larmes s'écouler parce que c'est l'expression d'une tension émotionnelle, quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Et le fait que justement les larmes sortent, c'est une décharge. Et ça, c'est une soupape de sécurité pour l'organisme pour parvenir justement à s'équilibrer davantage. Si on retient ces larmes, c'est comme si on essaie d'étouffer quelque chose en soi. Et c'est ce qui est paradoxal justement dans le deuil. Plus on va vers les lieux qui symbolisent la disparition de l'autre, les objets avec lesquels on est en contact et qui rappellent le défunt, plus on a mal. Mais il ne faut pas fuir cette souffrance, quitte à y aller de façon assez espacée, mais peut-être le cimetière est quelque chose où il faut se rendre parce que ça acte et ça rend concret la disparition de l'autre. Maintenant, quand on est dans la douleur, c'est difficile quand même de croire qu'on va s'en sortir. On a plus l'impression qu'on souffre quand on y va. Mais c'est un processus qui est nécessaire et qui est inévitable.
Une auditrice en ligne à présent, c'est vous, Sadiatou. On vous retrouve en région parisienne. Sadiatou, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Sadiatou, vous, c'est la perte de votre fils qui reste douloureuse aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances votre fils est décédé? Ça remonte à combien de temps?
Mon fils est décédé le 5 novembre 2022. Il a fait une crise de drépanocytose. Je n'étais pas avec lui, mais je parlais tout le temps avec lui. J'ai même parlé avec lui 30 minutes avant son décès. C'est ça qui m'a vraiment étonnée, parce que je ne croyais pas qu'il est parti, quand on m'a dit qu'il est parti.
Et depuis qu'il est décédé, vous êtes rendue déjà sur sa tombe, sur son lieu de sépulture?
Malheureusement, non. Non. Je me dis que peut-être si je fais ça, ça va m'apaiser un peu. Ses amis qui ne laissent pas tout le temps, chaque fois, ils reviennent vers moi et tout. Ça m'apaise beaucoup parce que parfois on parlait ensemble avec eux, même au téléphone et tout. Et aujourd'hui, ils parlent avec moi et que lui, il n'est pas là. Et il y a sa voix qui me manque. Je ne sais pas. Et quand je commence, ils disent que maman, si c'est pour pleurer, on ne va plus t'appeler.
Est-ce qu'une fois que vous avez raccroché avec eux et que vous avez pleuré, finalement, ça vous fait du bien?
Oui, beaucoup même.
Ouais. Vous ressentez quoi une fois que vous avez pleuré un bon coup?
Bon, quand je termine, je me dis, de toute façon,
tu es parti, c'est parce que tu devais partir, il est temps et que c'est là, je suis sûre que tu es bien là où tu es. Et puis, c'est ce qui fait que tu es là-bas. C'est comme ça que j'essaie de m'apaiser parfois.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous apaiser? Vous avez dit parler avec ses amis, ça vous fait du bien. Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous font du bien?
Au fait, mon souci, c'est quoi? Et ma mère qui l'avait en dernière position.
Ouais.
Et il y a ma sœur, même son papa et tout. Mais quand je commence à leur parler, elles ne veulent pas que je parle. Elles commencent à me dire « Non, tu n'acceptes pas, arrête, on ne fait pas ça et tout. » Et quand il y a ces amis qui viennent là-bas ou les parents, tout le temps il y a des gens, quand je commence à pleurer, ils disent que « Non, il faut que tu arrêtes, tu n'acceptes pas, on ne fait pas ça, tu es en train de lui faire mal et tout. » Et ça, finalement, je ne peux même plus parler avec eux. Je ne peux pas leur dire ce que je ressens. Et parfois, j'ai besoin de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, lui, en dernière position, il m'a dit, quand je l'avais appelé,
oui.
Il me disait, « Maman, ne t'inquiète pas, je vais bien. » Je dis, « Non, tu ne vas pas bien parce que ta voix, là, je ne sens pas bien ta voix. » Après, il me dit, « Non, 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 je suis juste fatiguée. J'ai envie de me reposer. » Il y avait ma maman qui était à côté. Elle a dit non. Depuis le matin, je lui ai dit de manger. Il ne veut pas. Il dit non, qu'il est fatigué. Il veut se reposer. J'ai commencé à dire à ma mère, j'ai dit, je suis sûre, il a mal là où il est. Mais le connaissant, il ne veut pas vous faire...
Je sais pas comment je d'inquiétude, il ne veut pas vous inquiéter.
Il ne veut pas vous inquiéter, donc il ne va pas vous le dire. Et puis après, il y a mon frère qui m'appelle en pleurant, en me disant, tu vois, tu vois, tu vois. Je dis, je vois quoi? Il refuse de dire qui est décédé. Non, mais moi, je ne m'attendais pas du tout que ce soit lui, en fait. Après, je demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on lui a donné là-bas, comment vous avez fait, je vous avais dit, essayez de joindre son médecin, les gens là ne connaissent pas bien sa maladie, tout. Et avant, juste son décès, j'ai eu des maux de ventre, je ne sais pas si c'était le ventre ou quoi, comme si je voulais accoucher, en fait. C'est les mêmes douleurs que j'ai ressenties. J'étais au niveau de la route. Au niveau du rond-point, j'étais même assise. J'ai même pas pu bouger.
Sadia Tou, on entend l'immense douleur d'une maman, un sentiment d'injustice et puis cette disparition à distance. En tout cas, ce qu'on entend, c'est que vous aviez un fils et un bon fils. Vous adoriez votre fils et on entend aussi que votre fils vous aimait. Papa Lamine Faye, on entend notre auditrice qui se sent en tout cas incomprise et très seule face à cette perte.
Oui. Dans une profonde confusion, parce qu'elle ne comprend pas comment son fils est parti, qu'est-ce qui a été fait. Et justement, dans ce genre de situation, on nourrit même une certaine culpabilité, parce qu'on peut se dire au fond de soi, peut-être que si on était là, les choses auraient pris une autre tournure. Et il y a toujours cette sorte de déni. Elle sait que son fils est parti, mais de temps en temps, elle a du mal à y croire. Mais Sadia Tou ne reçoit pas l'aide qu'il faut. En fait, la famille, les amis de son défunt fils. Eux tous, ils le font avec de très bonnes intentions, sauf que ça ne répond pas forcément à ses besoins. Ses besoins, c'est justement de pouvoir en parler. Et je vais juste suggérer à Sadia Tou une chose, c'est que quand les amis sont là, il faut juste qu'elle leur dise « Votre présence me fait du bien », parce que les gens ne sont pas tout le temps censés forcément comprendre. Et elle a besoin de cet espace pour pouvoir en pleurer. Elle a besoin de cet espace qui lui rappelle son défunt fils. C'est paradoxal, mais plus on est en contact avec ce qui nous rappelle le défunt, plus la douleur semble s'exacerber. Et naturellement, en tant qu'être humain, on ne veut pas souffrir. Or, c'est ce qu'il faut continuer à faire. Et avec le temps, les choses vont finir par s'estomper très progressivement. C'est un grand appel que je lance aux familles, à l'entourage, aux proches. Laissez les choses circuler. C'est pas que la personne, elle remet en question peut-être la volonté divine ou la destinée. C'est juste que c'est des moments où elle a besoin de s'épancher, d'en parler et laisser le faire autant de fois qu'elle voudra parce que ça va permettre l'apaisement. Et donc, Sadia Tou doit regarder en elle. Est-ce qu'il y a du regret? Est-ce qu'il y a de la culpabilité? C'est une maman qui est là, qui veut protéger son fils, qui a envie que ce fils guérisse, mais à un moment donné, au moment où les choses s'aggravaient et qui a débouché sur le décès, est-ce qu'elle se dit qu'elle aurait pu être là et peut-être les choses se seraient passées autrement? C'est des questions à se poser de façon légitime, à les accepter, à les explorer, à aller au fond de soi et à ne pas se donner de limites. parce que tout ça fait partie du processus de deuil.
Un grand merci à vous, hein, Sadia Tou, pour votre appel. C'est maintenant à Port-Gentil qu'on part. Du Gabon, Claudine nous a envoyé ce message sur le répondeur de Priorité Santé. On l'écoute tout de suite.
Bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé. Je m'appelle Claudine, j'ai 52 ans, je vous appelle depuis Port-Gentil. Alors, ça va faire un an que j'ai perdu ma maman, qui était ma confidente, mon amie. Cette dernière a décédé de suite d'une récidive d'AVC à 80 ans. Venait de fêter à peine son anniversaire 2 mois plus tôt. Donc, je n'arrive pas à faire son deuil. Je ne suis pas là à son enterrement et je refuse de me rendre à l'endroit où elle a été inhumée parce que pour moi, c'est comme accepter son départ complètement, quoi. Donc, je me suis fait fabriquer des statuettes, j'ai des sacs à son effigie, des coussins. J'ai plein de photos d'elle partout. Malheureusement, mon entourage n'arrive pas à comprendre mon comportement. Alors, je me demande un peu si réellement je ferais mieux de passer à autre chose ou alors ça se fera tout seul, quoi. J'ai quand même la famille, c'est-à-dire ma famille, mes enfants, mon époux qui sont là pour moi, qui m'aident à passer un peu le cap. Mais c'est là au fond de moi, j'arrive vraiment pas à faire ce deuil-là. J'arrive pas du tout. Donc c'est un peu mon problème. Merci.
Claudine, hein, qui témoigne entre déni et culte de sa maman disparue. En même temps, Claudine le dit, sa disparition, c'est assez récent. Une année seulement, papa Lamine Faye, professeur, finalement, on a plutôt le sentiment qu'elle est en plein processus de deuil, non?
Pour le moment, elle est à la première étape du deuil en général. C'est le moment où on vous annonce la perte et puis vous refusez d'y croire. Parce que là, elle est en train de faire comme si rien n'avait changé, tout était figé à travers les statuettes, les photos. Et que, comme elle le dit, elle a refusé d'aller au cimetière, elle a refusé de... Voilà, faire ce qu'il faut pour effectivement se rendre compte que sa maman n'est plus. Et c'est l'exemple type des deuils bloqués, figés. Bon, ça fait un an, c'est pas, peut-être pas trop alarmant. Et tant que ça ne gâche pas sa vie de tous les jours, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Elle a besoin de rentrer dans le processus du deuil à son rythme. Et quand on est dans le déni comme ça, c'est que notre esprit, indépendamment de notre volonté, met en place des défenses psychologiques puisque c'est trop violent pour soi et on a besoin de rentrer progressivement pour le digérer petit à petit. Ça fait qu'actuellement, effectivement, son deuil est bloqué. Mais si je l'avais, je l'encouragerais vivement à accepter de faire le premier pas, à essayer de se rendre au cimetière. La perte du lien physique n'est plus, mais actuellement, elle le refuse. C'est comme si elle maintient sa maman à ses côtés pour ne pas avoir le sentiment qu'elle est partie.
On va prendre maintenant une dernière auditrice en ligne, si vous le voulez bien. On part pour la République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et on retrouve en ligne Davina. Davina, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous, c'est votre frère que vous avez perdu. Aujourd'hui, vous avez 27 ans. C'est une perte inattendue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça s'est passé ?
Alors, ça va faire exactement 10 mois que j'ai perdu mon frère, âgé de 23 ans. On était très, très proches. Déjà qu'il faut signaler qu'il n'a pas de maladie particulière. Enfin, il a toujours grandi en santé. Il était un sportif. Comme d'habitude, il revenait d'une promenade. Il était 22h, 23h. Et normalement, il demande à manger. Il suit sa télé, comme d'habitude. Et chacun va dormir dans son coin parce que moi, je vais aller travailler. Et par la suite, à 6h du matin, l'un de ses frères essaie de le réveiller pour se préparer pour la fac. Mais bizarrement, ce jour-là, il le réveillait, il le touchait, mais il ne réagissait pas. J'entends mon frère crier « Papa, Yaya » pour dire « Grand frère, le grand frère ne se réveille pas ». C'est là que mon père sort de sa chambre. Je sors de ma chambre également et le premier réflexe, j'essaie de le toucher, d'avoir un pouls, de savoir s'il respirait. J'ai senti que ses mains étaient froides. Et c'est là que, dans la panique, j'ai commencé à faire un massage cardiaque, mais j'étais tellement paniquée que j'ai pas pu aller plus loin. J'ai rapidement sorti trouver de l'aide, des gens pour le transporter et essayer de l'emmener à l'hôpital. Et en arrivant à l'hôpital, c'est là qu'on nous dira qu'on avait emmené quelqu'un qui était déjà décédé depuis bien longtemps. Ça, c'était le choc.
Est-ce qu'il y a eu des explications du côté des médecins?
Non, on nous avait emmené un cadavre. C'est tout ce qu'ils ont eu à dire. Le certificat de décès est sorti. Enfin, on ne comprenait rien. Par la suite, toute la famille avait décidé à ce qu'on fasse une autopsie pour savoir ce qui s'était passé.
Ouais.
Mais après, vous savez, chez nous, en Afrique, et particulièrement chez nous dans mon pays, en fait, c'est une mort comme ça est justement liée au mystique, au mystère, enfin, des fétiches, de la sorcellerie et tout ça. Et on était vraiment tiraillés, voilà, ne le faites pas, laissez-le reposer, voilà, c'est Dieu. Du coup, j'ai explosé, en fait, j'étais en colère.
Est-ce que ça vous aurait aidé, vous, des explications plus rationnelles?
Bien sûr, comment je... Parce qu'en fait, là, depuis, j'ai cette peur-là de me réveiller un autre jour et de savoir que je ne suis plus, enfin, je ne sais même pas si je serai, ou de savoir que l'un de mes frères n'est plus, ou mon père, ou ma mère. Tous les soirs, je me lève en essayant de voir si mes autres frères respirent encore. Vous voyez un peu ce que ça fait. Je suis traumatisée, j'ai peur de tout et de rien. À chaque fois que je parle de lui, j'ai l'impression qu'il va réapparaître juste à côté pour me dire que voilà, c'est une blague. J'attends qu'il revienne.
Oui, c'est vraiment un choc, un traumatisme. On entend Davina, professeur Papalamine Fay, mélange de chagrin, de peur, de colère. Et on peut dire qu'on comprend cette colère, finalement.
On comprend tous les sentiments qui accompagnent cette perte tragique. C'est ce qu'on appelle des deuils traumatiques. Et le traumatisme a vraiment l'inconvénient d'entraver le processus de deuil. J'aurais suggéré à Davina vraiment de se faire aider, de se faire accompagner, parce que ce n'est pas un processus qui est simple. Il y a quelque chose qui s'est très, très, très fortement fragilisé en elle. Et c'est comme si aujourd'hui, elle est en train de vivre pleinement ce qu'on dit habituellement. Des fois, la vie ne tient qu'à un fil. Et donc, elle est tout le temps dans la vérification. Elle va voir est-ce que ses frères respirent encore. C'est des réactions de stress énormes qui la mettent tout le temps en état d'alerte. Et quand ça se poursuit aussi longtemps, ça peut amener même vers l'épuisement. Et c'est là où je recommande fortement qu'elle essaie de se faire accompagner, de se faire suivre, voilà, pour que les choses se remettent un peu plus en ordre. Mais c'est extrêmement choquant. Même ça peut générer chez elle des résistances, même à l'endormissement, où on a l'impression que le sommeil, finalement, c'est presque la porte vers la mort.
Davina, est-ce que vous avez les moyens et peut-être l'envie aujourd'hui d'aller parler à un psy, un psychiatre ou un psychologue pour vous faire aider?
Les moyens, oui, mais j'ai l'impression qu'après, je risquerai de l'oublier. C'est ce que je ne veux pas oublier. Je ne veux pas, en fait.
Davina, moi, je vous rassure, vous n'allez pas l'oublier. Et comprendre ce qui s'est passé, pouvoir faire la paix avec soi, ça ne vous fera pas moins souffrir, mais vous allez donner un autre sens à cette souffrance.
On remercie beaucoup Davina pour ce témoignage extrêmement émouvant. Quand on dit accepter la mort de quelqu'un, on a bien compris avec cet échange avec vous, hein, Papalamine Fay, professeur, cela ne veut en aucun cas dire oublier cette personne.
Absolument pas. Accepter la mort de quelqu'un, c'est savoir juste renoncer aux liens physiques et être dans une relation beaucoup plus spirituelle, plus intérieure, plus intime.
Et dire à toutes celles qui ont témoigné aujourd'hui qu'un jour, c'est vrai, ça peut arriver, on peut repenser à quelqu'un tout simplement, professeur Fay, en souriant, les larmes sont parties et désormais on sourit en se souvenant aussi des bons souvenirs.
Je tiens aussi à rassurer sur quelque chose, même si on va bien et qu'à certains moments, on a l'impression de perdre pied, c'est pas qu'on est en train de rétrograder, mais c'est le processus qui est toujours en cours. Et à un moment donné, comme on dit, pour sortir du tunnel, il faut accepter d'y rentrer. Donc il faut vivre son deuil, accepter les moments fortement chargés sur le plan émotionnel. Et comme ça, les émotions vont circuler et ça va apaiser en fin de compte quelque chose.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à notre invitation pour cette écoute. Énormément d'émotions pendant cette émission. À très bientôt dans Priorité Santé, avant de nous dire tout à fait au revoir, Bia Ferreira avec Aconta Vai Chegar.
Eu falo grito mesmo, vê se não implica. A altura da minha voz é do mesmo tamanho da sua dívida. Mais de 500 anos, juros até multiplica. Com correção monetária adicional.
que a pá não quis esquecer que a sua herança vem de muitos pretos que não estão no raso, que foram parar no fundo do mar. Esse mesmo que você gosta tanto, o sal que você vê lá na praia é fruto do pranto dessa multidão que não teve chance de nadar ou se salvar, porque era amarrado antes. Se vier com história de mimimi incoerente, não se ilude, branquitude, vocês devem até os dentes. A conta vem,
a conta vem.
Amém?
Amém?
Ainda tem alguém ouvindo ou não sobrou mais ninguém? A conta vem. Xaramanaia, eu não paro de pregar até que a Babilônia caia. Tu mastiga comida e quando sobra vai pro lixo. Prefere jogar fora do que dá pra um faminto. E compra pro cachorro só ração fina de quilo. E pra empregada paga menos do que um salário mínimo ínfimo. O seu desejo de mudança no seu íntimo só quer um like, intolerância é a regra. E ninguém erra, só senta em cima do seu rabo e procura uma plateia pro seu show de horrores. Caminhando pra um abismo, usam ética e moral pra justificar seu racismo. Eu já tô de olho, vigiando você, aqui defende racismo reverso em plena TV de tela plana. Terra plana, num plano de genocídio, quem anda em cima da grama é bendito, porque tá vivo e resistiu a mais um dia contra esse plano maligno que cega todo dia, do amém até o dízimo, que é obrigatório, pois é mandamento bíblico. Dinheirinho sujo que já sai de helicóptero, limpo, abençoado, pra deixar o pastor próspero. Amém?
Amém.
Tá bem? Amém. Ainda tem alguém ouvindo ou não sobrou mais ninguém? Amém?
Amém.
Xaramanaia, eu não paro de pregar até que a Babilônia caia. Amém?
Você
tá bem? Ainda tem alguém ouvindo ou não sobrou mais ninguém? Amém? Xaramanaia, eu não paro de pregar até que a Babilônia caia. A dívida é alta, eu vou começar a cobrar 48 vezes se foram lá depositar. Mansão de 6 milhões, eu nem sei quantos andares. Famílias indígenas, vítimas da Damares. Essa dívida extrapola até outros patamares. Teve início muito antes de Zumbi dos Palmares. Povos originários já estavam aqui primeiro. É melhor reconhecer porque agora ficou feio. Deve tá ruim continuar aqui no meio. Me responde, vai pagar no débito ou no dinheiro? A conta vem.
Amém.
Ainda tem alguém ouvindo ou não sobrou mais ninguém? A conta vem. Xaramanaia, eu não paro de pregar até que a Babilônia caia. A conta vem.
Amém.
Ainda tem alguém ouvindo ou não sobrou mais ninguém? A conta vem. Xaramanaia, eu não paro de pregar até que a Babilônia caia.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Talimpo aujourd'hui avec nous, Damien Roucou. À Dakar, Malençon Co. À Paris, Didier Bleu, Ovidio D'Assouza à la réalisation. Lundi, on va parler des préparatifs des JO sur le plan de la santé. À moins de 3 mois de l'événement du lancement de Paris 2024, quel suivi médical, quels usages en termes de récupération, de prévention des blessures à l'approche de cette compétition tant attendue. On se donne rendez-vous lundi, 9h10, temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.